Radio Suisse Romande, le Grand 8.
La foi, c'est bon. Voilà, si on peut trouver un slogan comme ça. C'est-à-dire que c'est à mesure où je peux consommer. Elle est une question de relation. Je dirais que ce soit un produit, si on peut dire ça comme ça, un produit de type irrationnel comme la foi, ou un produit du type rationnel comme le fait de manger du pain, les deux éléments posent la problématique principale qui est de dire comment je me rentre en relation avec le produit proposé et en quoi il me fait du bien.
À quoi servent encore les religions? On en débattait vendredi matin, notamment avec Éric Jaffrin qu'on vient d'entendre. Bonjour à tous. Ce matin, dans le Grand 8, y a-t-il un nouveau féminisme en Suisse? D'un côté, une majorité de femmes gouvernent désormais la Suisse. De l'autre, les femmes dénudées émaillent toujours les pages de certains quotidiens suisses et les panneaux publicitaires. Et puis ce week-end, l'élection de Miss Suisse vient également questionner l'image de la femme et de l'homme d'ailleurs dans la société. Entre le féminisme qui revendique, l'autre qui affirme même un certain érotisme, il y a aussi le post-féminisme, de tous ces courants-là. On va en débattre de cette question du féminisme dans la Suisse de 2010. Et les hommes, là-dedans, eh bien peut-être devraient-ils davantage, les hommes, rester à la maison. Ce jeudi soir, à la Fédération des entreprises romandes à Genève, débat au titre suggestif « Femme CEO, père au foyer ». Et c'est vrai que le regard de la société est plutôt sévère sur ces hommes, encore assez rares, faut bien le dire, qui restent à la maison pendant que madame fait carrière. Il y a encore un tabou autour de cette question. Bref, c'est peut-être au tour des hommes de s'émanciper. On va également en parler tout à l'heure. Je vous présente nos invités ce matin. Stéphanie Pahut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes linguiste à l'Université de Lausanne, co-auteur de La place des femmes et des hommes dans la presse écrite généraliste de Suisse romande des années 80 à nos jours. Sadiqa Wenger est également avec nous en direct de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère municipale à Gauche Toute en ville de Genève, présidente de Ni pute ni soumise à Genève. Claire Cliva, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes théologienne, professeure de Nouveau Testament à l'Université de Lausanne. Vous êtes également pasteur. Fabienne Despot, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes députée UDC au Grand Conseil vaudois. Enfin, j'accueille Valérie Cossy, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études genre à l'UNIL et puis vous collaborez à la revue Nouvelles Questions Féministes.
Le Grand 8, Joël Marchetti.
Pour le reste de l'actualité, je vous rappelle le résultat de la votation fédérale d'hier sur la révision de l'assurance chômage, acceptée par 53,4% des votants. Ça touche aussi, au fond, à l'organisation de la société. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure au courant de ce Grand 8. Question tout d'abord, y a-t-il un nouveau féminisme en Suisse? En tout cas, certaines choses changent avec, par exemple, l'accession, on en a beaucoup parlé, d'une majorité de femmes au Conseil fédéral. Stéphanie Pahut, vous écrivez, vous l'avez écrit, il existe aujourd'hui un féminisme un peu dépassé en Suisse.
Oui, j'ai surtout dit que trop de féminisme risquait de tuer le féminisme. Mais j'ai deux arguments pour dire ça. Déjà, ce que j'ai trouvé dommage pendant tout ce feuilleton électoral, c'est que d'un point de vue théorique, on mélange les argumentaires. À savoir que les arguments qui ont été déployés en faveur de la parité étaient tantôt fondés sur un principe égalitariste, tantôt sur un principe fondé sur du différentialisme, tantôt... C'est un argumentaire qui mélangeait les deux points de vue. Et puis l'autre chose que j'ai trouvé très dommageable, c'est que tout se passe comme si l'identité sexuelle prévaut encore sur toute autre composante de l'identité politique. Exact. Et comme si surtout cette identité sexuelle signifiait cette identité politique. Ce qui fait que ça continue à enfermer les femmes dans cette identité sexuelle.
Donc on est avant tout une femme avant d'être quoi que ce soit d'autre. C'est ça en gros ce que vous reprochez.
C'est vraiment ce qui est ressorti dans tout ce que j'ai pu lire dans les médias durant ce feuilleton électoral.
Sadiqa Wenger, vous allez dire d'accord avec cette idée à contester.
Ah, je suis entièrement d'accord avec madame. Alors vraiment, il n'y a pas eu de débat politique du tout.
Est-ce que trop de féminisme tue le féminisme, Valérie Cossy?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait trop de féminisme. Je crois qu'il y a une difficulté à redéfinir les enjeux du féminisme dans un contexte, effectivement, où on est les bénéficiaires d'une lutte qui a été menée il y a 30, 40 ans pour les droits politiques, pour l'égalité. On est les bénéficiaires de cette lutte-là. Par contre, l'égalité réelle est encore loin d'être acquise. Et 4 conseillères fédérales, c'est l'arbre qui cache la forêt. On sait que dans plein d'autres secteurs de la société, de la vie politique, de la vie économique, l'égalité réelle n'est pas encore là.
Mais cette guerre d'il y a 30 à 40 ans, celle que vous venez de citer, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui dépassée? Est-ce qu'il n'est pas temps de tourner une page dans ces revendications du féminisme?
Il faut tourner une page, mais si par tourner une page, on entend tourner la page et ne plus en parler, ce qui est quand même le risque de ce discours, non, parce que les féministes n'ont quand même pas très souvent le droit de parole, elles n'ont pas très souvent passé au Grand 8, par exemple. Donc il y a quand même...
Mais comment? Vous êtes là, tout le monde
oui,
est là.
Ce matin. Mais il y a une difficulté difficulté à trouver un discours. Effectivement, il y a 40 ans, on s'engageait sur des enjeux dont on pouvait dire qu'ils concernaient toutes les femmes. Quand on se battait pour le droit de vote, quand on se battait pour l'égalité, on pouvait dire ça va concerner toutes les femmes. Aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus flous, sont beaucoup plus difficiles à cerner. On se bat pour le plafond de verre, mais le plafond de verre, ça concerne que les femmes qualifiées. On se bat on essaie de lutter contre la précarité des familles monoparentales, pour plein d'autres choses, mais il n'y a pas de front uni. Ces droits universels étant acquis, évidemment, les questions deviennent de plus en plus complexes et c'est difficile d'occuper un espace de discours sur plein d'enjeux ponctuels.
Alors, Fabienne Despot, est-ce que la Suisse pêche par excès de féminisme, comme l'a dit Stéphanie Pahu ?
Par excès de féminisme, peut-être pas. Je pense qu'en fait, elle doit changer de forme de féminisme. Elle a vécu pendant longtemps avec un féminisme que je qualifierais d'idéologique. C'est-à-dire qu'il a eu l'avantage de faire avancer la cause des femmes, mais en fait, il avait comme fond de faire avancer d'autres causes plutôt que la cause des femmes. Je prends un exemple qui m'a énormément frappée lors des réactions de la nomination de Mme Somaruga, c'est la réaction de Mme Dreyfus qui se présentait comme la personne qui avait ouvert la voie au Conseil fédéral aux femmes. Elle avait simplement oublié que la première femme qui était au Conseil fédéral était radicale. Et on avait l'impression que cette argumentation féministe était essentiellement là pour faire avancer le socialisme plutôt que de faire avancer le féminisme. Je pense que les gens se rendent peu à peu compte que le féminisme idéologique est dépassé, qu'il sonne faux, qui ne correspond plus à la situation, et qu'on doit en venir à un féminisme un peu plus concret, avec des éléments plus ponctuels, par exemple des revendications évidentes comme à compétences et responsabilités équivalentes, salaire équivalent.
Stéphanie Pahu.
Oui, moi je pense que ce qu'il est urgent de faire, c'est de travailler vraiment sur les représentations et puis créer de nouveaux imaginaires de genre. Parce que ce qui est positif, évidemment, c'est qu'on a réconcilié femmes et sphères publiques. Donc on a des femmes en politique, on a des femmes en économie, etc., même si on en a moins. Par contre, si on regarde quelles sont ces femmes et puis comment on les présente, on voit que les femmes qui font de la politique, par exemple, déjà, elles doivent présenter un féminisme, mais modéré. Deux, elles doivent afficher une féminité, mais elles doivent évidemment s'éloigner de toute forme de figure de la courtisane. Et puis trois, en plus, on leur demande de faire de la politique autrement. Et enfin, par-dessus tout ça, les politiciennes doivent encore développer une rhétorique du féminisme. Donc, à mon avis, c'est vraiment autour de ces imaginaires de genre qu'il faut travailler et il faut vraiment créer de nouveaux imaginaires de genre.
Alors, c'est vrai que ce qui vous fait réagir notamment, c'est lorsqu'on entend des politiciennes qui affirment que les femmes n'abordent pas les dossiers de la même manière que les hommes.
Voilà, alors là, c'est là que, pour moi, on développe un féminisme différentialiste. Non, pas vrai, c'est de ça dont il faut absolument sortir. C'est faux, c'est complètement faux.
Clafiva, je vois réagir par rapport à
oui,
ça.
Mais moi, j'aime bien cette expression de créer de nouveaux imaginaires de genre. Je crois que c'est exactement là qu'on doit travailler. Ce qui me frappe ce matin, c'est que vous avez invité 5 femmes autour des micros. Alors, on va pas
s'en
plaindre.
C'est le pur hasard.
Mais alors, si vous le dites, à mon avis, créer de nouveaux imaginaires de genre, ça veut dire se mettre ensemble autour des tables. Mmh. Quand j'étais encore doctorante, on avait reçu un mail pour nous faire réfléchir aux questions de carrière et de vie professionnelle. Mais de grâce, prenons ces questions tous ensemble. Ça n'est plus une question qui concerne les unes plus que les autres. À mon avis, on n'a toujours pas été jusqu'au bout de la révolution de la pilule. 1959, Boston, ça change tout. Ça change d'une part dans le rapport individu-société, parce que les enfants ne sont plus seulement une question personnelle mais sociale, si on peut choisir d'en faire ou pas. Et ça change tout dans le rapport homme-femme. Donc j'attends pour un prochain Grand 8 qu'on soit homme et femme.
Mais il n'y a pas de page tournée, c'est ce que vous nous dites, depuis 40 ans, au fond, rien n'a vraiment changé.
Si, je veux dire, on ne peut que savourer quand même cette image d'un conseil fédéral à majorité féminine après les aléas qu'on a eus, et je m'en réjouis. Le pouvoir symbolique d'une majorité féminine est énorme sur l'inconscient. Je veux dire, voir des femmes au poste de responsabilité, voir à l'université des femmes professeurs, ça change, on le sait, on l'a expérimenté. Mais en même temps, dans le concret, la création de nouveaux imaginaires, elle passe pour moi par un travail commun, hommes et femmes ensemble.
Alors c'est vrai qu'il y a un peu deux courants de pensée, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Claire Cléva, un peu deux courants de pensée entre ceux qui pensent que les différences hommes-femmes sont le fruit d'une construction sociale, construction historique aussi, et puis les autres qui pensent que les différences hommes-femmes sont dans l'essence même des deux genres, que chacun des genres, les hommes et les femmes, chacun de leur côté développerait comme ça des compétences qui leur est propres. Qu'est-ce que vous en dites,
comme
vous,
si
la pasteur théologienne?
Oui,
comme si c'était deux espèces, exactement.
Alors, l'historienne, elle sait très bien que... je reviens à ma question de la pilule, parce que c'est un point fondamental. Les communautés chrétiennes dans l'Antiquité, c'est très clair. Il y en a eu où il y a eu des femmes à responsabilité, même des femmes prêtres et évêques, dans des christianismes marginaux, où, comme par hasard, on défendait l'idée de ne pas avoir d'enfants. Donc vous voyez, c'est un espèce de cercle qui s'auto-alimente. Dans autrefois, au début de notre ère, dans les mouvements où il n'y avait pas d'enfants, eh bien les femmes pouvaient prendre des responsabilités. Donc là, il y a vraiment un point clé qui montre qu'on n'est pas sur du naturel, mais sur du culturel. Et à partir du moment où le culturel nous permet de gérer le mieux possible le naturel, on repart sur un autre niveau.
Fabienne Despotes, hommes, femmes, les différences entre hommes et femmes, c'est culturel ou c'est inné, tout simplement.
Culturel, c'est évident que la culture joue un grand rôle. Évidemment que peu à peu, dans notre société occidentale, la différence a tendance à peu à peu s'amenuiser, ce qui n'est pas le cas dans la grande majorité des sociétés actuelles présentes dans ce monde. Mais naturel, à mon avis, on rejoint de nouveau un féminisme idéologique que de refuser de voir que l'homme n'est pas en essence la même chose que la femme. Et ce qui m'a toujours choquée dans le féminisme, c'est de vouloir se fermer les yeux face à cette différence, considérant que cette différence était inacceptable. Moi, je ne suis pas d'accord. Cette différence non seulement est acceptable, mais en plus, elle est d'une richesse. Et je suis convaincue que les femmes abordent les problèmes d'une autre manière que les hommes. Elles ont une sensibilité, elles ont un sens à percevoir les choses qui est une autre manière que l'homme. Et c'est une bonne chose. Pourquoi le nier ?
D'accord. C'est vrai qu'on, est-ce qu'on tend pas par excès à gommer ces différences ? Alika Wenger.
Bon, écoutez, est-ce que vous avez vraiment, madame, l'impression que Margaret Thatcher a envisagé le monde d'une manière différente de celle d'un homme ? Est-ce que vous croyez que Catherine de Drusty a construit un empire en faisant de la broderie ou de la peinture sur soie ? Non, c'était une guerrière. Alors, il faut arrêter. Moi, je suis en politique et je vous garantis que les femmes en politique se comportent très exactement comme les hommes en politique. Elles abordent les projets de la même manière, ont les mêmes arguments, font les mêmes horreurs et ont aussi les mêmes qualités. Il n'y a pas de différence parce que tout simplement, nous sommes les revers de la même pièce.
Fabienne
nous ne sommes pas des espèces différentes.
Je ne suis absolument pas d'accord. J'observe mon cas où je suis dans un groupe de députés UDC vaudois bien posés, bien tranquilles, bien installés, où nous avons 24 hommes. Nous avons 24 hommes et 2 femmes dans ce groupe de 26 députés. Et nous apportons, nous, 2 femmes, un apport, une manière de voir le monde qui est une richesse pour ce groupe et qui est différente de la manière de voir le monde de ces 24 mâles.
On voit bien alors ces courants de pensée qui, cette fois-ci, alors, sont frontalement énoncés. Valérie aussi, je vois rien depuis le début.
Si les féministes n'aiment pas le mot différence, c'est pas par goût forcené de l'idéologie, c'est parce que historiquement, la différence, le plus souvent, a servi des causes conservatrices, a servi à dire aux femmes, mais si vous êtes tellement différentes, pourquoi est-ce que vous ne restez pas à la maison, vous occupez des enfants ?
Et donc, vous nous dites que le féminisme est de gauche, en fait ?
Non, pas spécialement, mais que le discours sur la différence est, historiquement, a toujours eu des répercussions conservatrices qui renvoyaient les femmes à la maison. Et donc, pourquoi on n'aime pas ce mot, voilà pourquoi on s'en méfie, voilà pourquoi on valorise aussi un discours plutôt sur ce qui est construit, sur ce qui est culturel, sur ce qu'on peut changer finalement.
Claire Fiva.
Oui, je crois que ce que nous décrit Madame Despotes correspond au sentiment de la majorité de la population ou des femmes qui travaillent. On sent qu'on apporte d'autres choses, etc. Mais il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est parce que pour l'instant, on est encore dans une culture où nous sommes, nous femmes, majoritairement formatées pour adopter plutôt les rôles de la conciliation, de la discussion, de petites choses sympathiques qui vont mettre un peu de décoration dans l'atmosphère. Mais à partir du moment où on élève filles et garçons en leur disant Dans votre existence, vous avez une responsabilité sociale, une place à prendre dans la société, les choses changeront. Je suis frappée quand je discute avec des étudiantes en vue d'un doctorat, combien me disent encore « mais vous savez, je ne suis pas carriériste ». Et je leur dis « mais je ne vous parle pas de carrière, je vous parle juste de votre métier, de votre emploi, qu'est-ce que vous aimeriez faire ?» On a vraiment encore un problème là-dessus.
C'est vrai que le discours qu'on entend globalement semble pas très compatible avec aussi les valeurs que chacun place, hommes et femmes d'ailleurs, chacun place sur l'agent féminin. Stéphanie Pahu.
Mais moi, je pense que ça vaut déjà la peine de sortir de ce débat qui est un peu émotionnel. On voit qu'on a de la peine à sortir de tout ça. Et puis, pas oublier que les différences, on en observe en pratique, mais effectivement, c'est parce que les hommes et les femmes performent encore aujourd'hui des identités féminines et masculines. Parce que pour être un vrai homme ou une vraie femme, il faut qu'on corresponde au rôle. Donc, on reproduit des modèles qu'on a plus ou moins consciemment intégrés. Mais ces différences, il ne faut pas oublier qu'elles n'ont aucun poids en dehors des systèmes de représentation qui les accueillent et qui leur donnent du sens. Et puis, Absolument. L'autre chose, si on prend quelque chose d'un petit peu théorique, il y a beaucoup d'enquêtes
enquêtes qui ont été faites, et notamment en France, sur la pratique des politiciennes et des politiciens. Et on observe qu'au début, effectivement, on a des différences de pratique entre les hommes et les femmes. Mais pourquoi ? Parce que les femmes ont des positions d'outsider et qu'en plus, elles ont intégré ces modèles et qu'elles font ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'elles présentent un féminisme modéré, qu'elles prennent un rôle féminin, mais pas trop quand même, etc. Et on a remarqué qu'au bout de 3 ans, ces différences s'équilibraient et qu'on faisait plus du tout la différence entre les pratiques des hommes et des femmes. Donc c'est juste une question de rôle qu'on a intégré et qu'on reproduit.
D'accord, donc on applique des schémas, c'est intéressant ce que vient de dire Stéphanie Pahut.
Oui, mais Fabienne ça ne correspond pas du tout à mon expérience. Ça fait presque 10 ans que je fais de la politique et j'observe que si je me sens différente, ce n'est pas par... cette différence ne signifie pas que j'ai un manque d'autorité, un manque de volonté, un manque d'ambition. Absolument pas.
Mmh. D'accord, voilà, simplement. Et les différences. Et c'est vrai qu'à part ça, si on pousse la réflexion et le raisonnement qui est le vôtre jusqu'au bout, Sally Kavenga, ça veut pas dire qu'on va gommer toute différence qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, peut-être certaines valeurs, certaines différenciations risquent de se perdre, tout simplement, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement.
Écoutez, jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est de dire que nous ayons tous la même formation. Et moi, je suis d'accord avec la dame qui a parlé.
Avec Claire Cliva, peut-être, ou Stéphanie Pahut.
Stéphanie Pahut, je crois que tout ça est vraiment une construction sociale. Et que tout dépend de la manière dont vous avez été formaté. Votre rapport aux hommes ou votre rapport aux femmes est vraiment le résultat de tout ça. J'ai 6 frères. Je peux vous garantir que je n'ai pas le même regard sur les hommes. Je n'avais en tout cas pas adolescente et même adulte le même regard sur les hommes que les filles qui ont vécu toutes seules ou qui n'ont eu qu'un seul frère et qui ont eu la relation garçon-fille. J'étais l'aînée et j'avais 6 frères. Et j'aime autant vous dire que j'ai appris 1 à commander, 2 à voir les hommes backstage et c'était la même chose. C'est ça que j'essaye d'expliquer en permanence. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, en tout cas pour ce qui est, je dirais, des fonctions, de toutes les fonctions sociales. Que nous ayons une différence biologique, ben ça, tout le monde l'a remarqué. Mais ça ne peut rien justifier. Ça n'est pas...
Et différence sociale, différence biologique, est-ce que c'est gommable à 100%?
Ben écoutez, dans le règne animal, en général, ce sont les femelles qui sont les plus puissantes. Alors, je dois
ça
dire
ça reste
qu'on
des différences,
réussi...
remarquez, dans un sens ou dans l'autre, hein, finalement, peu importe, voilà. Ça reste des
mais
différences.
Alors, là où je suis étonnée, c'est que étant une espèce extrêmement fragile, nous avons réussi, dans notre fragilité, à nous fragiliser encore plus, à savoir à créer une division entre les deux sexes, qui est complètement délirant.
Stéphanie Pahut.
Non, mais j'ai une petite précision, c'est qu'on ne dit pas que ce qui vient du social n'a aucun poids, parce qu'on oppose toujours ce qui est naturel, est-ce qui serait nécessaire, et puis ce qui est social, est-ce qui est contingent. On dit pas ça. Voilà, mais on dit pas ça. Ce qui est social a un poids, forcément. Mais après, pour moi, il y a un très mauvais moteur qui fait qu'on veut absolument conserver des différences et dire que les femmes ne font pas de la politique de la même manière que les hommes, c'est la peur. Parce qu'on a peur de plus se retrouver, on a peur de perdre son identité, et puis on a peur de plus pouvoir ranger les gens dans des cases. Donc, à mon avis, c'est ce très mauvais moteur dont il faut se débarrasser pour se libérer de toute forme d'assignation identitaire.
Vous avez peur, Fabienne Despot?
Non, pas du tout, mais je suis rassurée de voir que l'on constate quand même qu'il y a une différence biologique, parce que je m'inquiétais à ce qu'on l'accepte.
On a toujours constaté, on va pas nier qu'il y a des différences de chromosomes, d'organes, etc. Ce qu'on nie, c'est le fait que qu'on puisse naître avec un chromosome XY puisse signifier que 20 ans après, on ait moins de choix dans la société, des moins bons salaires, etc. C'est ça qui est contestable. Mais voilà, mais c'est nier. Non, les féministes n'ont jamais nié que.
Donc différence biologique, mais aucune différence sociale. C'est bien ça le modèle que vous nous présentez ce matin. Évidemment, c'est un débat qui est long, hein, qui est profond et qui pose pas mal de questions. Alors, on a parlé des femmes jusqu'ici. Parlons des hommes, si vous le voulez bien. Ce jeudi soir, ça se passe à Genève et vous y participerez. Sally Kavenga se déroule à la Fédération des entreprises romandes, un débat avec ce titre, Femmes CEO, Père au foyer. Et puis, c'est vrai.
Mais c'est... Encore une fois, on inverse les rôles comme si le vrai changement était que les hommes subissent, je dirais, les humiliations et les obligations qui ont été celles des femmes. Ça n'est en tout cas pas la revendication. revendications des féministes.
C'est
intéressant. Je veux dire que ça n'est pas parce que nous voulons pouvoir accéder aux mêmes postes et aux mêmes responsabilités que par ailleurs nous voulons avoir des maris qui vont nous servir de bonnes à tout faire.
Donc plus personne ne reste à la maison, c'est ça ce que vous nous dites. Ce qui est finalement assez moderne et assez intéressant. Claire Clivard.
Oui, ben, c'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment une contradiction au niveau du discours de formation des jeunes. Pendant des années, jusqu'à 18, jusqu'à 24 ans, on fait tout pour qu'ils aient les meilleures formations possibles. Puis après, on dirait aux unes ou aux autres, eh bien, restez à la maison. Je veux dire, c'est absurde du point de vue de l'identité individuelle. Puis alors, c'est encore plus absurde du point de vue de l'identité sociale et collective. Qu'on pense au droit du divorce dans ces derniers changements ou à cette loi là, sur le chômage qu'on a acceptée ce week-end, ma foi.
Ouais.
Je veux dire, ça devient irresponsable de dire à un jeune ou une jeune, quel qu'il soit, eh bien, tu vas rester à la maison. Parce que, je veux dire, c'est catastrophe économique annoncée. Hein.
Donc, crèche pour tout le monde, c'est ça. En gros,
oui.
c'est ça
l'idée. Oui, oui, moi je suis en faveur.
Et on arrête en fait de laisser un des parents qui soit, que ce soit la femme, c'est la grande majorité actuellement, ou l'homme, arrête de rester à la maison. C'est ça que vous dites ?
Je veux dire, il faut quand même d'abord se rappeler que rester à la maison, travailler à mi-temps, à temps partiel, c'est quand même un luxe bourgeois. Et c'est une professeure d'université qui vous le dit. Je dirais quand même tout plein de nos auditeurs qui ne peuvent même pas encore se poser cette question financièrement. Alors pour ceux et celles qui peuvent se la poser, eh bien pourquoi ne pas imaginer son parcours de vie avec différentes étapes, différentes personnes. Il n'y a, et je suis là assise en face de vous à vous le dire, aucune difficulté sur quelques années, sur une brève période à diminuer, à réduire, à adapter son travail quand on est dans des travaux qualifiés. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser en termes de parcours professionnel pour toute une existence, et ça c'est un challenge pour filles et garçons.
Fabienne Despot, ce modèle-là où l'un des deux parents reste à la maison, que ce soit la femme ou l'homme d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, voilà, c'est difficile, de plus en plus difficile, et à vrai dire ça concerne de moins en moins de monde.
Assurément que ce serait le modèle idéal de pouvoir avoir des parents qui travaillent à 50% chacun et que chacun prenne une part de la responsabilité de la famille, du ménage. Mais comme l'a dit madame, c'est une question qui concerne peu de gens parce que nous vivons dans une telle situation de stress que finalement la question ne se pose même plus. Mais c'est vrai que l'homme a toute une tradition derrière lui dont peu à peu il s'éloigne, mais qui est encore ancré, qui fait qu'il a...
Il y a même un tabou, excusez-moi, il y a même un tabou formidable en Suisse encore sur les hommes qui restent à la maison. Je veux dire, les cas restent rares. Puis il y a des pressions sociales, il y a des critiques. C'est d'ailleurs le thème du débat de jeudi, c'est justement ça.
Exactement, ce qui fait qu'il a d'une certaine manière des raisons de se sentir mal à l'aise de devenir homme au foyer. Parce qu'il a la société qui lui donne une image qui est peu reluisante de ce qu'il fait. Il faut en tenir compte et je pense que d'une certaine manière... L'homme, effectivement, aura de la peine à se retrouver au-dessous de la femme du point de vue social. Et justement, ce n'est pas une bonne chose à atteindre, mais c'est une bonne chose, c'est une chose que visait d'une certaine manière le féminisme idéologique, qui en imposant des quotas, mettait la femme au-dessus de l'homme parce qu'elle se basait sur des critères qui n'étaient pas concrets.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça quand même, effectivement, dans le regard de la société sur les femmes, sur les hommes? Alors ça change, ça évolue, il y a des débats, mais enfin quand même. Valérie Cossy.
Moi, je m'interroge toujours de savoir pourquoi les féministes, le féminisme a si mauvaise presse. Je veux dire, le féminisme, c'est pas autre chose qu'un mouvement d'émancipation des femmes. On doit nos places aujourd'hui dans la société, dans les parlements, dans l'université, au fait que des féministes se sont engagées. Et pourquoi leur mettre sur le dos des combats qui n'ont pas été les leurs? Elles se sont pas battues.
Mais quand
mettre les hommes en dessous des femmes, elles se sont battues pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes.
Mais quand on voit le tabou autour des hommes au foyer aujourd'hui, est-ce que c'est pas aux hommes aussi de s'émanciper, tout simplement?
Oui, mais...
Mais
est-ce que ça n'est pas encore une manière d'envisager la famille, une famille qui n'existe plus? Je veux dire, papa, maman, la bonne et moi, c'est fini. Ce qui a vraiment changé, par exemple, c'est effectivement les personnes les plus formées sont plutôt dans la bourgeoisie et que les femmes qui ne travaillent plus sont plutôt dans les classes, je dirais, plus modestes. Ça, c'est intéressant parce que moi, je constate sur le terrain effectivement que là où le féminisme a le moins réussi, c'est dans les classes populaires. Et là, effectivement, les relations hommes-femmes sont restées extrêmement figées. Et c'est une question de formation, de lieu d'habitation. Il y a plein d'éléments qui vont venir, je veux dire, étayer tout ça.
Donc vous nous dites, en fait, que le féminisme moderne... Excusez-moi, ce que vous nous dites, au fond, c'est que le féminisme moderne, ok, c'est super, c'est un super modèle de société, encore faut-il pouvoir se le payer.
Exact. Oui.
Fabienne Despot.
Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire madame, c'est qu'effectivement il y a un problème dans le féminisme actuel, une chose qui n'a visiblement pas été comprise par le féminisme actuel, c'est que le problème essentiel maintenant n'est plus tellement dans la société occidentale, mais dans les sociétés migrantes qui débarquent ici. Cette discussion sur les minarets a permis un vaste débat sur l'islam en Europe et notamment sur la situation des femmes dans l'islam. Et on s'est rendu compte que les féministes, notamment au sein du Parti socialiste, étaient complètement déstabilisées par cette question, parce qu'elles ne savaient pas comment mettre en face deux idéologies contraires.
Il y a eu tout un débat effectivement sur les femmes, sur le voile, comment considérer entre le droit de la femme, entre le voile, la laïcité dans la société, dans certains États.
Oui.
Bon, débat là-dessus, c'est un autre débat à vrai dire. Valérie Cossy, je vous vois réagir par rapport à ça. On va pas ouvrir un débat là-dessus, hein, cela dit. Effectivement, oui, sur cette sensibilité de gauche propre au féminisme.
J'ai pas envie d'intervenir sur la sensibilité de gauche du féminisme, mais effectivement la difficulté qu'il y a. C'est difficile pour les féministes de trouver, savoir quoi dire sur tous les sujets, notamment sur la question du voile. Mais sur la question du voile, je crois que la question, c'est surtout de se méfier de la manière dont certaines femmes peuvent être instrumentalisées. Finalement, ce qui intéresse dans la question du voile, c'est pas forcément le sort des femmes musulmanes, c'est d'autres enjeux sur la migration, etc.
D'accord.
Et on peut contester qu'on instrumentalise une catégorie de population pour finalement faire avancer des causes politiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le féminisme.
Bon, j'en reviens aux hommes, hein. On débattait des hommes et de la place des hommes là-dedans. Et ce débat, cette semaine, c'est vrai que c'est un débat qui se pose dans pas mal de familles, que fait l'homme, enfin l'égalité, répartition des tâches, etc. Stéphanie Pahut, c'est vrai que le regard de la société est plutôt sévère sur ces hommes encore assez rares qui restent à la maison pendant que l'épouse fait carrière.
Mais je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est peut-être pour ça que le féminisme a mauvaise presse, c'est que les hommes souffrent autant des modèles sociaux que les femmes. C'est peut-être pour ça que le féminisme a si mauvaise presse que ça. Et puis ce qu'il faudrait peut-être changer à nouveau, c'est les représentations sociales, parce qu'on donne toujours beaucoup plus de valeur à la sphère publique et professionnelle qu'à la sphère privée et domestique. Donc là aussi, hein, y aurait quelque chose à faire. Et puis, il faut peut-être enfin sortir d'un discours conservateur qui veut qu'absolument quelqu'un reste à la maison. Donc on peut aussi élever des enfants sans que personne n'ait un temps de travail réduit.
Ça concerne beaucoup de familles, comme ça a été dit tout à l'heure.
Voilà, exactement. Donc là, à mon avis, il y a un discours conservateur qu'il faut absolument balayer.
Vous parlez de la mauvaise presse du féminisme. C'est quoi ? Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, le féminisme, c'est pas sexy comme sujet ? C'est un terme journalistique, hein ? Ça n'a rien à voir avec les gens.
Ah oui, bah les féministes, elles sont moches, elles ont du poil aux pattes, elles portent la moustache, et en gros, on les présente comme des monstres. Je veux dire que c'est l'image du féminisme lui-même est démente.
Il y a une caricature.
Qu'il y a oui, c'est une caricature, mais enfin, en gros, c'est ce qu'on a. Et en plus, elles sont castratrices, alors...
Bon, vous êtes cinq dignes représentantes, en tout cas, de la gent féminine ce matin. Et je peux infirmer, évidemment, ce qui vient d'être dit. De femmes, alors pas du féminisme, on est bien d'accord. Fabienne Despot, sur cette mauvaise presse du féminisme, est-ce que votre regard sur le féminisme, il est si loin que ça, que ce que vient de décrire Salika Wenger?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de points sur lesquels on peut être d'accord. Mais intrinsèquement, il me semble que nous avons des positions importantes.
Vous êtes féministe?
Non, j'ai toujours refusé très profondément ce terme-là. Je suis femme et j'ai souvent eu l'impression que femme et féministe étaient deux choses opposées.
Est-ce que vous pouvez accepter, je vous pose la question aux autres intervenantes, que l'on soit femme et non féministe Qui veut réagir ? Valérie Cossy.
Féministe, mais c'est un engagement politique, donc bien sûr qu'on peut être femme, homme, pas féministe, communiste, pas communiste, radical, pas radical. Enfin,
Stéphanie Bayou.
C'est plutôt sain qu'on dise ceci, parce que dans beaucoup de débats et surtout dans les médias ces derniers temps pendant le feuilleton électoral, on a écrasé ces deux caractéristiques. Ouais. Et puis on a confondu le simple fait d'être une femme et le fait d'avoir une position féministe. Donc c'est plutôt bien qu'on dise ceci. Hein.
Et homme et non féministe, ça vous paraît totalement irréalisable, enfin je dirais totalement condamnable à 100%. Homme pardon, et non féministe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
Bah écoutez, j'en connais tellement que... Mais que j'ai remarqué par exemple que dans les groupes qui se prétendent être les groupes politiques qui se prétendent être féministes, c'est dans ces groupes-là qu'on demande à la fille qui est à la table de réunion de servir les cafés. Le féminisme,
ça me rappelle quelques dessins
encore,
de presse au lendemain la semaine dernière.
Encore, le féminisme n'est pas encore entré à 100% en tout cas dans les structures des partis politiques.
Claire Clivat.
Alors c'est vrai que je n'ai jamais trop apprécié le terme de féministe en tant que tel. Je serais plutôt pour un nouvel humanisme, comme je le disais au début. On puisse discuter ensemble, hommes et femmes,
ça,
et
c'est une histoire ensemble pour... c'est parce que le mot est démodé.
Non, mais et ça, ensemble c'est parce que... entre identités culturelles.
Ça c'est parce que le mot aussi est démodé. Vous cherchez juste à rénover un
non,
mot.
Non, voilà. Je pense qu'il est, il est temps de passer à l'étape suivante par rapport à ça. Et vous évoquiez le voile tout à l'heure. Ce que j'aurais à dire par rapport à ça, ce qui est intéressant dans les rencontres interculturelles qui arrivent, c'est qu'on va devoir se donner la discipline de re-raconter aux nouvelles générations notre histoire, et notamment le fait qu'ici, les femmes ne votent sur le plan suisse que depuis 1971. On doit le rappeler et le redire.
Et pourtant, la Suisse est pionnière dans sa représentation des femmes au gouvernement.
Absolument.
Peut-être cela mérite
donc
aussi d'être
tout espoir
redit ce matin.
Est permis.
Bon, merci beaucoup en tout cas à vous toutes d'avoir été les invités du Grand 8 ce matin. Merci, merci à vous Claire Cliva. Merci également à vous Sally Kavenger, Stéphanie Pahut, Fabienne Despotes et Valérie Cossy. On vous retrouve évidemment sur le site internet du Grand 8. L'adresse est toute simple, g8.rsr.ch. Très bonne journée à toutes et à tous. 8h31, voici l'Espresso de...